mitraillé.
J'ai pensé à quelqu'un. Bon, c'est pas fait pour le public. Hein.
Ah ouais. C'est incroyable.
Oh. Un peu comme pas une cage, je sais pas ce qu'on pourrait dire ça. Le dialogue avec la nature, il est très important pour une pièce comme ça. On s'est rendu compte. Ce serait par exemple beaucoup plus difficile de la mettre en ville, dans un autre environnement. Là, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se réfère à la nature, par transparence aussi. Je pense que ça serait quand même ça serait compliqué de la mettre dans un décor urbain, par exemple.
Même si elle supporte les débroussailleuses.
C'est vrai, mais ça c'est les vignerons du coin, là, mais ouais. Donc, tout est relié, en fait. Il n'y a pas de scellement. Et en plus, il y a un effet un peu tournant, ça, ce qui fait que la structure, elle peut se... Ça fait vraiment... Et puis tout s'est plié.
Comme un parapluie qu'on aurait posé par terre.
On n'a rien de fixe, quoi. Si on commence à bouger un truc, ça va bouger partout. En fait. C'est vraiment comme une structure volante, un peu. C'est vrai qu'il manquerait quelques perroquets, là. Ce serait drôle, ça.
Le sculpteur Olivier Estopé sur le site de B&R, au pied de sa création en 2014, souhaite une corolle majestueuse, 32 mètres de diamètre, tricotée à la main dans du fil de fer, brodée d'un envol d'oiseaux rouillés, délicatement posée dans les plis du terrain et bordée d'une ronde de 5 pans nonchalants. L'œuvre, réalisée en étroite collaboration avec sa fille Lara Estopé, s'intitule « Un matin d'orfin » et elle est à couper le souffle. Et c'était en primeur pour La Tête à l'envers, au lendemain de son installation, exactement un mois avant le vernissage de B&R. Mais avant de le suivre sur le terrain, on retrouve l'artiste dans son atelier d'Olon.
Je travaille à partir de documents que je prends dans les journaux, que je trouve un peu à gauche, à droite. Mmh. C'est un travail en fait, de retranscription de certaines idées. Et puis, en général, ça va un peu dans tous les sens. Puis, simplement que des fois, en les mettant dans un certain ordre, j'arrive à dégager une idée. À partir de choses comme ça, que je redessine. En général, dans tous les projets que je développe, il y a toujours une trace par le dessin. C'est-à-dire que... justement, qui prend des chemins très différents. Et avec le temps, les choses s'organisent et puis tout d'un coup, une idée apparaît et puis elle permet d'être développée un peu plus loin. Mais c'est vraiment une espèce de jalonnage, je dirais, d'idées. C'est un peu comme ça que je le conçois.
Donc en fait, Olivier Estopé, vous avez dit prendre le temps. Un dessin qui met du temps à apparaître, que vous laissez apparaître tranquillement.
C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est essayer de trouver, disons, dans un foisonnement, on dirait un foisonnement de traits ou d'idées, de dégager des forces et puis d'essayer d'aller de l'avant avec une idée, avec un projet, à partir d'un détail, d'une situation, c'est un peu ce qui passe. Et j'aime bien faire ça, même si sur le moment il n'y a pas de rapport direct avec ce qui pourrait se faire, mais ça fait des couches qui s'entassent. Et puis là-dedans, les choses elles vont venir, quoi.
Vous aimez bien laisser parler le noir. C'est dans cette sombritude, si je peux dire, que peuvent apparaître des choses cachées, des choses qui sont en vous et qui demandent qu'à surgir.
Oui, puis surtout, c'est un peu une technique de dessin que j'ai développée depuis quand même pas mal d'années, même à partir de la sortie de l'école des beaux-arts, j'ai commencé à dessiner sur des grands formats déjà. Pour apprivoiser le grand format, j'ai commencé effectivement à noircir des papiers qui étaient marouflés sur des panneaux, et puis les noircir mais vraiment saturés de crayons, quoi, de mine de plomb. Et puis dans ce noir, on pourrait dire ce noir profond, là j'ai commencé à faire apparaître des choses un peu à la manière, on dirait la manière de la gravure, qui manière noire où on révèle des blancs à travers le noir. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé à dessiner. Au début, ça ressemblait plutôt à des espèces d'empreintes, comment on pourrait dire, une espèce de projection comme ça d'empreintes. Et puis après, il est venu des thématiques que j'ai développées par le dessin. Mais disons, il y a effectivement l'idée de partir sur un fond et de faire apparaître des choses par l'arrière.
Et c'est là qu'on retrouve une forme de patience, d'endurance qui est votre caractéristique, c'est que ça surgit pas d'un coup, c'est à force de dessiner, c'est à force de travailler que la forme s'affine, prend corps.
Effectivement, je méfierais d'une chose très rapide ou spontanée ou comme ça, donc je suis vraiment à l'opposé de cette technique-là. Aussi parce que j'aime bien pouvoir reprendre. C'est un peu ce qui se passe aussi avec le modelage, dans le sens que par rapport à, par exemple, une taille directe ou une chose comme ça, ça me permet effectivement, comme dans le dessin, de rajouter, d'enlever, de faire des va-et-vient comme ça. Ce que j'aime bien faire avec le dessin, c'est un peu une façon de progresser, d'avancer jusqu'à un certain résultat. À un moment donné, on se dit, voilà, bon, c'est bon, on s'arrête là, quoi.
À quel moment un objet dessiné va pouvoir prendre une forme en trois dimensions? À quel moment il est prêt à être modelé?
Au fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on a envie de faire figurer les choses et on essaye de les dessiner. C'est un peu ce que j'essaie encore de faire maintenant. Par exemple, si j'ai un document devant moi qui m'intéresse, je sais pas, un document, une photo d'actualité, une photo de journal, j'essaye là-dedans de prendre quelque chose dont j'ai envie, d'en extraire quelque chose, une expression, une lumière, une chose comme ça. Voilà, c'est toujours à partir de quelque chose que une image peut se faire.
Là, par exemple, on est d'ailleurs pas très bien installé. On est debout sur votre petite table de dessin au milieu de cet atelier vaste et fait pour travailler avec des tonnes de béton. Et en fait, il y a des panneaux ici avec des photos que vous, j'imagine, collez depuis que vous êtes là. Donnez-moi un exemple sur une de ces formes, de ces lumières qui vous a plus pour que vous colliez cette photo ou celle-là.
Alors ça c'est un panneau un peu proche de mon bureau, puis c'est par exemple des photos qui rendent hommage à des artistes que j'aime bien. Là il y a Raymond Meyer, là il y a la Simonin, la Zouk évidemment, parce que elle a fait partie, comment dire ça,
elle vous a inspiré dans un
travail, et puis avec ça j'ai pu avoir un contact avec elle et c'était merveilleux quoi. J'ai beaucoup aimé, elle a été voir mon expo, elle a fait des commentaires assez incroyables, et puis je l'ai vue, on s'est rencontrés, c'était vraiment, je n'imaginais pas la rencontrer autrement que comme ça. Et puis bon, ça c'est des photos qu'on m'a envoyées, donc qui sont en relation avec des thèmes qui sont intéressants, comme justement la façon de dessiner. Là, on a une estampe japonaise avec comment est-ce qu'on illustre des cheveux. Et puis là, il y a un nu, là, il y a une tapisserie. C'est aussi qui sont liés à des visites que j'ai faites. C'est des souvenirs, au fait. Mais par exemple, si on se déplace un petit peu là-bas, je pourrais vous montrer des choses qui pourraient servir à des travaux. Voilà, par exemple, j'ai des espèces de petits cartons. Et puis, je découpe des images. Par exemple, là, il y a cette reconstitution d'une bataille. Et puis, peut-être que de là-dedans, je vais dessiner des soldats ou je vais essayer d'en faire quelque chose. Là, il y a des images d'actualité, comme cette image-là, que j'ai trouvée assez extraordinaire parce qu'elle elle fait une espèce de vague comme ça. Ils ont évidemment dans une ville en ruine. Et le mouvement de la foule est absolument impressionnant parce que ça monte sur les bords comme ça. Et ça donne une impression de quelque chose qui chavire. Ça, c'est une impression qui est très forte. Donc, là, on a des Roms là, qui sont...
Une photo qui date de 1907.
Voilà, ouais, et qui est extraordinaire. Ils ont dans la façon dont les gens sont habillés, comment est-ce qu'ils posent pour la photo et tout ça, les charrettes, les roulottes et tout ça. Peut-être que je n'en ferai rien, mais disons, des fois, ça peut donner le départ d'un dessin ou d'une thématique.
Ce qui frappe sur ces trois photos que vous prenez au hasard en premier, donc la foule de Damas, les soldats, les Roms, c'est toujours des groupes, c'est des individus en groupe, comme souvent vos animaux par exemple, vos oies, vos loups.
Oui, mais disons que quand j'ai développé des thématiques, je me suis souvent beaucoup intéressé au problème de comment intervenir sur un terrain, en fait, avec quoi intervenir. Et puis comme j'avais envie d'intervenir souvent avec une mise en scène où il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, il y a l'idée de la répétition, effectivement, parce qu'il n'y a pas 36 solutions, disons, pour la sculpture. Dans le cas, par exemple, des loups, j'avais commencé à faire ce projet pour Champélac. Je suis parti tout à fait sur un autre projet, mais à un moment donné, ça jouait pas. J'ai fait des vérifications sur place et je me suis dit, tiens, dans cet endroit, il faut qu'il y ait quelque chose qui le traverse. Donc, c'est presque une réaction physique à un endroit qui fait que ça détermine ce qui va se passer après. C'est jamais une intention au départ. Je me dis jamais, je vais faire des loups. Mais je pars d'une autre idée, puis ça vient comme ça par un autre chemin.
Et ça, c'était en quelle année? Parce que c'est intéressant, justement, ça, cet exemple-là.
En 2008, que j'ai fait ce travail des loups à Champé.
Et après, cette thématique, elle va évoluer, elle va se décliner dans plusieurs endroits. On part avec des loups quand même relativement proches de la réalité. Ouais. Puis on va arriver à la ribambelle de loups presque enfantine que vous allez laisser à Ventône.
Quand j'ai décidé de faire ces loups, au début, ça ressemblait à rien, quoi. Ça ressemblait, je sais pas, à des renards, des chiens, tout ce qu'on voulait. À un moment donné, ben, il faut en commencer un, quoi, de ces loups. C'est-à-dire qu'il faut lui donner une forme.
Des tas de dessins avant.
Oui, il y a des tas de dessins. Et puis, on commence ce qu'on fait. Et au fait, j'ai eu monstre peine à trouver le gabarit, au fait, d'un de ces loups. Parce que je fais pas de l'art naturaliste. Moi, je vais pas observer des animaux. Je le fais très peu. Enfin, c'est vraiment tout du pur fantasme ou de... C'est une forme d'observation, mais c'est pas l'observation de la réalité.
C'est pas celle du naturaliste, mais vous avez un soin à l'attitude, à la position.
Mais ça, c'est presque impossible de faire autrement. C'est-à-dire que si on veut faire un animal qui est en mouvement, là il s'agit d'un groupe, ben on est presque obligé de se poser la question comment ça va, quoi, les pattes, on peut pas y échapper. Et ça paraît contradictoire, puis en plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas véritablement appris. Et là, c'est un peu de la pure invention, c'est-à-dire qu'il faut réinventer chaque fois. Et quand j'ai commencé ce loup à l'atelier, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va avoir comme forme et tout ça. Et au début, ça ressemblait à un renard, justement, c'était pas assez grand. Alors après, il faut changer un peu d'échelle, hein. Ça, c'est ce qui se passe avec la sculpture. Et puis, petit à petit, ben, on rentre dedans, un peu comme si on était un peu dans cet animal, puis on essayait de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et là, je les ai faits à la suite, comme ça. Donc, ma technique, elle est très ancienne. En fait, il s'agit de modeler. Ensuite, on fait un moule. Le modèle original est presque détruit. Puis, on recommence. On en fait un deuxième, un troisième. On fait des moules. On roule le béton dans les moules, on démoule. Enfin, voilà, tous les moules sont détruits. Et puis, ça fait une meute à la fin. Ça fait une dizaine, 13 loups à peu près.
13 loups, 600 kilos, plus ou moins chacun.
Oui, à peu près, c'est ça.
De béton.
Voilà.
Pourquoi du béton?
Alors, le béton, il est venu à l'époque des Beaux-Arts, au fait, où on apprenait à faire de la sculpture, mais on la faisait en plâtre. Et puis, en général, c'était cassé, c'était pas très réussi. Donc, il fallait trouver une technique. Et là, on, parce qu'on était quand même quelques élèves à se poser cette question. Se dire, mais on va essayer de trouver un matériau quand même qui soit résistant, pas trop cher, et puis pour pouvoir réaliser ces sculptures. Et c'est à la suite de ça que j'ai continué ce travail avec le béton. Il permet de faire toutes les phases soi-même, sans passer par un fondeur, une chose comme ça, aussi pour des raisons économiques, forcément. Et ça permet de faire le travail, de faire les moules, de faire le coulage. Et puis, hop, on arrive à la fin. Là, on verra tout à l'heure un autre animal qui est aussi dans la dernière sculpture que j'ai faite. Mais c'est vraiment fait dans ce mode-là. C'est-à-dire que c'est une succession. C'est un travail qui est fait sur plusieurs mois et puis qui s'échafaude comme ça.
D'où l'importance de tous ces dessins en amont.
Mmh, exactement. Le dessin, il complète. Et puis, c'est très particulier parce que je... Comment dire ça? Le dessin, il est... Par exemple, par rapport au loup, quand j'ai commencé, effectivement, je commence le modelage, ensuite je fais des dessins, le soir je fais des dessins, le matin je regarde ce que j'ai fait le soir, je me dis, tiens, j'ai fait là, je pourrais faire comme ça. Donc c'est vraiment une partie comme ça, un échange entre les deux.
C'est étrange parce que ces deux extrêmes, le dessin très fin, très délicat, très précis, souvent sur des calques fragiles, et puis vous allez choisir le béton avec des kilos de béton, quelque chose qui devient permanent. Vous jouez sur les deux tableaux.
Enfin, un dessin de sculpteur par rapport à un autre dessin d'un peintre, par exemple, là, il est quand même toujours lié à une forme. Ou comment est-ce qu'on définit une forme ? Si on regarde bien, il y a toujours quelque chose qui fait que ça va permettre d'être construit. Et là, quand même, on le fait pour pour que ça nous serve à quelque chose, au fait, quand même. Hein. Moi, je le vois encore maintenant. Disons, je travaille comme ça. Si je prends une photo et puis qu'il y a un détail qui me plaît, disons, je pense à une réalisation possible d'une main, d'un visage ou d'une lumière, une chose comme ça. C'est pas très éloigné. Les deux choses sont pas éloignées.
Mais c'est jamais le dessin pour le dessin. Le sculpteur domine.
C'est pas le dessin pour le dessin. C'est toujours, justement, c'est ça un peu ce voyage entre des choses qui sont relativement abstraites et des choses plus figuratives. Mais c'est faire apparaître des choses. Et puis, disons, c'est beaucoup plus difficile de faire un flou, par exemple, en sculpture. C'est presque impossible. On peut le faire en dessin. On peut faire disparaître une forme derrière quelque chose, puis on ne sait pas où ça va et tout ça. Bon, ok. Puis est-ce qu'on peut le faire en sculpture? C'est très différent. On peut le faire. Justement, c'est un peu ce que j'ai cherché à faire dans certains cas, par des mises en scène, puisqu'on parlait avant de mises en scène de groupe, de reproduire plusieurs fois les mêmes choses avec des légères variantes, c'est de créer des visions différentes qui font que ça peut apparaître comme un flou. C'est pas très distinct, au fait. Même si c'est de la construction. Donc c'est un peu ce qui m'intéresse, surtout maintenant. De plus en plus, j'aime bien, disons aussi, par le matériau qui s'allège, comment dire ça, mettre en jeu des structures. Et puis, on les met en scène, elles apparaissent sous différentes lumières, comme un peu ce qui apparaît dans le dessin. Hein, je vous montrais tout à l'heure l'histoire des loups, là, sur le lac de Champé, en treillis. L'idée, c'est ça, c'est vraiment, c'est comme une apparition. On n'est plus dans la forme, mais on sait quand même que c'est des loups qui courent.
Ça permet aussi à celui qui regarde de s'approprier, de se faire son histoire, de jouer un rôle, finalement.
Tout à fait. C'est quand même l'idée principale, c'est de mettre en scène une idée et de voir après qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est clair, avec le public, les réactions, et puis aussi pour soi, c'est dire, mais est-ce que ça, c'était bien, ou je l'ai fait comme ça, j'aurais pu le faire comme ça. Enfin, en général, c'est vraiment un champ d'expérience, quoi. C'est ça qui compte le plus. Puis, justement, là, je sors maintenant de cette... De ce travail-là pour Béart, on l'a fini dimanche, quoi, quasiment. Et puis, c'est ça l'idée qui est vraiment tout le temps là, c'est de se dire, est-ce que par rapport à ce qu'on a décidé, de presque une année qu'on travaille là-dessus, j'ai beaucoup travaillé avec ma fille Lara là-dessus, on a conçu ce projet ensemble, on a élaboré, on a discuté beaucoup, savoir qu'est-ce qu'on allait employer, comment ça allait se passer, mais on peut pas tout prévoir non plus. Et puis il y a une partie de hasard, enfin de, c'est pas c'est un miracle, mais disons de choses qu'on contrôle pas. Et à un moment donné, on essaye de planifier le travail, disons voilà, on va faire comme ça, on va utiliser tel matériau, on va plutôt là-dedans que là-dedans, on va faire ça, on fait un essai, on essaye de voir ce que ça peut donner. Et puis après, on part sur la réalisation. Et là, quand la chose est faite, ben on a ça sous les yeux, puis voilà, puis on faut s'y faire, quoi. je suis dans cet atelier qui représente un peu l'atelier idéal. Malheureusement, je dois partir. D'ailleurs, je sais même pas où je vais aller, mais enfin, disons, pour décrire un peu comment ça se passe, c'est un bel atelier, c'est une vieille maison, c'est une maison qui devait être au départ, je sais pas, peut-être un moulin, puis après, c'est devenu une grande menuiserie. Donc, c'est des grands ateliers. Et l'avantage, c'est la hauteur, ce qui est à peu près de 4 mètres, ça permet de faire des choses assez grandes. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a une sortie sur l'extérieur, sur une cour. Et moi, je travaille presque, on pourrait dire moitié-moitié dehors et dedans. Et là, j'ai pu partir sur les grands formats qui font à peu près 4 mètres de haut.
Dire aussi que c'est un espace très lumineux. Vous avez une grande verrière qui...
Exactement, oui. Et puis, évidemment, là aussi, ce qui est très beau ici, c'est le paysage, la vue sur le paysage, même si c'est un peu chaotique, mais on a un dégagement sur ce bas de plaine du Chablais qui est très belle, évidemment, avec le fond, hein, des fonds de montagne à l'arrière. Et puis... ça donne, comment on dirait, une implantation, physiologique sûrement, avec les montagnes toutes proches. Moi j'ai pas mal déménagé, parce que mes parents ont déménagé pas mal, mais j'arrive pas à savoir quelle est l'influence réelle, par exemple des montagnes sur un travail. Il y a des gens qui vont dire, ah tiens, ça ressemble à des montagnes, ou je sais pas quoi, moi j'arrive pas à me rendre compte. Mais peut-être qu'en habitant en Belgique, ça serait peut-être différent comme...
Vous n'êtes pas très facile à influencer, j'imagine, parce que faut quand même le dire, vous naissez à Lucent d'un père chef de gare, et vous dites j'ai beaucoup voyagé parce qu'en fait vous avez fait plusieurs gares vaudoises. Et ce qui est étrange, c'est que cette bête humaine que pouvait être un train, une locomotive, elle aurait pu vous hanter, mais pas du tout, du tout, du tout.
Ça me hante d'une certaine façon parce que je sais pas, j'y pense souvent, je fais beaucoup de rêves de trains. Ça reste quelque chose de très présent quand même, hein. Puis j'aime beaucoup les trains, donc. Mais dans le travail, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme influence finalement. Du point de vue formel, je me rends pas compte.
Et comment se sent imposer les animaux ? Parce que c'est quand même un thème récurrent.
Les animaux, ils sont apparus en premier dans les dessins, je dirais. Puis c'est pas tellement quelque chose qui m'attire en plus, mais. C'est typique dans ce dernier travail dont on parlera après. Au fait, j'y pensais absolument pas à un animal. Je voyais pas qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme animal. Et c'est venu un peu par une sorte de filiation du travail, de la forme, du genre, de l'intention. C'est vraiment une combinaison, mais ça vient... Je vais pas dire que ça s'impose, mais ça découle presque de ça. Et dans ce dernier travail, c'est évident que par rapport, disons, au physique de la pièce, je me suis dit, voilà, je dois faire ça, quoi. Ça me paraît évident.
On va voir ça sur place.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est dans les jardins de B et R.
Voilà. Tous les 3 ans, il y a une exposition de sculpture. Moi, j'y participe depuis 81, à peu près. Donc, je suis un vieux de la vieille là-dedans. Et puis, puisque le commissaire Nicolas Rabou a passé la main, et puis il y a eu un changement d'orientation, de genre. Et puis, moi, cette année, je suis un peu un rescapé. Mais disons, ça a été aussi l'occasion de développer ce travail monumental. Et puis, c'est quand même une chance, toujours.
On va aller voir ça in situ. On est là sur la... Comment elle s'appelle cette propriété, Olivier Stoppé ?
Propriété de Szilassi, qui vient du nom d'une famille hongroise qui arrivait là, ça fait un peu fin de siècle passé, qui venait pour les bains, parce qu'ici c'était connu pour les bains, à l'époque de l'hôtel des bains, des grands hôtels et tout ça. Donc ils achètent cette propriété, ils bâtissent cette maison qu'on a derrière nous, la maison de maître, magnifique, avec un domaine, une ferme. Et ici à côté, il y a un manège, petit manège, une espèce de parc d'agrément avec des plantations d'arbres superbes, variées.
Vous avez fait un peu tous les espaces ?
Voilà, exactement, j'ai été un peu partout. Puis là, maintenant, ça va être mon tour d'honneur, je crois. Je pense que ce sera fini après. Parce qu'en plus, j'ai habité à B pendant une quinzaine d'années. Et puis là, j'étais sur place et j'ai aussi un peu participé au montage de cette exposition. J'ai vu ça de près, quoi. Et on a, en étant sur place, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, j'ai pu m'imprégner de ces endroits. J'ai beaucoup aimé travailler avec la nature de ce parc, par rapport aux différents espaces, aux différentes géographies, aux différents mouvements du terrain. Ben, il y a maintenant 6 ans, j'avais fait cette horde de loups qui partait comme ça. Donc l'idée, c'était bien de sortir un peu visuellement de l'exposition, hein, puisqu'on s'échappait. Et puis avec cette pièce-là, qui n'était pas prévue au programme, mais c'est l'idée de, comme c'est une couronne, au fait, il fallait trouver un écrin, il fallait trouver un espace qui puisse la recevoir. Et puis c'est pour ça que je me suis mis dans cet endroit.
Alors on va décrire. En tout cas, j'aimerais bien que l'auditeur voie ce que j'ai devant les yeux maintenant.
Pour résumer, je pars d'un projet que j'ai développé il y a maintenant 4-5 ans, qui s'appelait une Pietà. Une Pietà parce que ça n'a pas tellement à voir avec l'idée d'une Pietà dans le sens religieux, de l'expression religieuse, mais plutôt l'idée d'un personnage qui en porte un autre. Je fais une série de dessins, et puis j'arrive à une forme qui se rapproche à une espèce de grand drapé, comme une corolle. Et dans la forme originale de cette Pietà, il y a un réceptacle, au fait, qui serait un nid, un tombeau, ou ce qu'on veut imaginer. Enfin, il y a un endroit qui reçoit quelque chose, et cet endroit, il est vide. Il n'y a plus de corps. Oui, c'est une Pietà sans corps. Hein. Donc, il reste la forme. Et cette pièce, elle est fabriquée avec du fer à béton tressé. Et l'idée, c'est que la seule chose qui touche le sol de cette forme, c'est le fond du réceptacle. Comme un chapeau à l'envers ou une corolle.
Ou comme une fourmilière transparente.
Voilà. Alors maintenant, alors disons, ça c'est la version que j'ai adaptée pour ce projet. C'est pour ça que je disais que j'avais collaboré beaucoup avec ma fille là-dessus. Et on est parti dans l'idée que on allait remplacer cette carapace qui donnait l'impression de quelque chose de beaucoup plus fermé, de beaucoup plus dur, un peu dans le genre d'une cuirasse. On a gardé la structure et on met dessus un tricot fait à la main, très important. Hein,
de fil de fer.
De fil de fer, donc fait à la main par des gens qui ont passé des mois à se bousiller les mains là-dessus, pour bien faire souffrir les gens, évidemment, puisque c'est déjà des choses qu'on m'a reprochées. Mais disons, l'idée, c'est que c'est un travail de plusieurs personnes. Les gens ont travaillé par alternance de 1 ou 2 jours, donc il y a à peu près une équipe de 15-20 personnes. Et on réalise cette couverture, ce drap, dans cette technique, dans l'idée que on fait un travail manuel. C'est de l'artisanat, si on veut. Mais c'est pas, faut pas confondre que l'art, c'est de l'artisanat. Mais cette partie-là, c'est une réalisation artisanale. Hein, je voulais pas partir sur quelque chose d'industriel. C'était pas mon idée. Et puis, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut se lancer là-dedans? Franchement, ça va quand même être long et dur. Et c'était très long et assez difficile.
Mais c'est comme une dentelle.
Voilà, c'est comme une dentelle, c'est ça, oui.
Très impressionnant. Ouais. Et il y a des sortes d'oiseaux rouillés.
Voilà, ça c'est aussi une chose qui est liée un peu au projet des loups que j'ai fait il y a 6 ans là-bas derrière. C'est qu'au fait, là, on a un vol d'oiseaux, l'ombre d'un vol d'oiseaux, ou la projection d'un vol d'oiseaux qui passe sur ce drapé, en fait. Hein. Par rapport à la dimension du terrain, on l'occupe au maximum, c'est-à-dire que la pièce, elle doit se déployer, elle a une dimension. Tout dans cette pièce doit faire référence à quelque chose qui repose et qui est en même temps très léger.
Et ce qui est frappant et ce qui est magnifique, là on n'en a pas encore fait tout le tour, mais j'imagine qu'à chaque endroit où on se pose pour la regarder, elle va avoir un rapport différent avec le paysage, voilà, avec les montagnes, avec le vignoble.
Ouais. Ouais. Et puis aussi, ce qui est très important ici, par exemple, si on se déplace un petit peu, si on a normalement plusieurs points de vue, c'est-à-dire que c'était aussi important de la découvrir depuis le haut. Et au fait, quand on s'éloigne, parce qu'on est quand même, c'est quand même assez grand, donc on doit prendre un peu de recul. Et puis on peut arriver sur cet élément comme une surprise, parce que ça occupe cet espace complètement.
Comme un grand tutu.
Voilà, c'est un grand tutu, exactement. On peut aller dessous, d'ailleurs, aussi. Mais non, normalement, on n'a pas le droit d'aller dessous. Hein. Mais je dis, pour la fabriquer, l'idée, c'était un peu aussi par rapport à la Pietà. Ça, c'était une des références possibles sur lesquelles j'avais travaillé. C'est l'histoire du drapé, quand même. C'est-à-dire, oui, c'est une broderie, c'est une robe, et il y a un espace dessous. Et il y a aussi un mystère dessous, forcément.
Et puis, il y a quelques animaux pour ceux qui en attendent voilà. De votre part.
Ben voilà, alors, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir là autour? parce que je sentais qu'il fallait quelque chose, et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ces ponts. Il y en a 5. Alors il y a aussi toute peut-être une symbolique là derrière, avec l'idée que c'est des ponts qui ne font pas la roue, puisque là on est devant déjà une roue, qui est, on va pas besoin de revenir là-dessus, mais il y a un peu cette espèce de jeu entre quelque chose qui est replié, qui repose aussi sur le sol. Donc on est un peu dans la redondance, mais on fait passer ces animaux qui sont comme, ce serait pas des gardiens, mais ça serait
comme une ronde.
Ouais, comme une ronde, voilà, exactement.
Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que même s'ils ne font pas la roue, vous les avez fait drôlement élégants.
Oui, bon, c'est un animal. Moi, jamais on m'aurait dit que je ferais ça une fois de ma vie. Je n'aurais jamais pensé ça. Là aussi, pour faire ça, il faut trouver des solutions. Ben, ce n'est pas du tout évident de reproduire un animal comme ça. Si on a cette démarche d'aller observer des animaux et d'en faire quelque chose. Mais moi, je ne le fais pas. J'ai absolument pas pensé à ça avant d'avoir cette idée qui est venue comme ça en cours d'élaboration. Il me semblait que ça pouvait effectivement faire comme une bordure, puisque tout est ou brodé ou agencé comme ça autour de cette robe. Ça me semblait possible de venir avec des éléments comme ça.
Donc finalement, à vous écouter, c'est peut-être à ces lieux, à ce jardin, à ces paysages inouïs qu'offre cette propriété de Béar, que doivent de naître vos animaux.
Alors certainement, parce que...
Les oies,
voilà,
les loups.
Exactement. Alors les oies, c'était aussi par rapport à une thématique. Alors dans le cas des oies, c'était l'idée des noces. Le thème générique de l'exposition, c'était les noces. Et puis moi, quand on me dit ça, bah, je dis noces, puis je vais chercher un peu dans mes souvenirs d'enfance ou comme ça. Et puis je fais ressortir des choses que j'ai vécues. Alors les noces, c'était un cortège qui rentrait, qu'on observait à travers une fenêtre. Et puis c'est comme ça que les éléments apparaissent, au fait, de ces oies. Les oies qui suivent un troupeau, parce qu'elles sont un peu bécasses, elles se mettent en groupe, quoi. Elles se suivent, elles sont en cortège, elles ont un peu le même mouvement. On pense à un mouvement, un retour de noces. Alors il y a ces personnages qui jouent du tambour, il y a la musique, le son, et il y a effectivement ce mouvement par le troupeau.
Et là, c'était en 2002, si j'ai 2002, bonne mémoire. Ouais, vous recevez le prix du public. Voilà. C'est important comme prix, vous qui avez reçu à peu près tous les prix.
Non, pas tous les prix, mais disons, oui, c'était... Moi, je trouvais important parce que une exposition comme ça, elle est pour le public, pour moi. Ça doit être comme ça. Enfin, ma notion de l'art, elle est faite. C'est fait quelque chose pour que les gens voient et les gens réagissent. C'est très important. Alors évidemment que le prix du public, ça a une importance, parce que ça veut dire que les gens voient, les gens aiment ou ont des réactions. Dans ce sens-là, ça, c'est important.
Olivier Stoppé, quand on dit que je pense qu'une manifestation comme Béar en est un bon exemple, que l'art contemporain se démocratise, que la sculpture suisse a de plus en plus d'amateurs, on vous donne souvent un exemple. Comme par exemple, on parlait tout à l'heure de ces oies, 170 oies qui ont toutes été vendues à gauche, à droite. Ouais. Vous pensez que effectivement l'art contemporain se démocratise ?
Oui, ça c'est vraiment c'est la question terrifiante, quoi, parce que quand on dit art contemporain, on peut dire voilà, moi je suis un artiste contemporain, je travaille maintenant, forcément je fais de l'art contemporain, mais il faut s'entendre aussi qu'est-ce que c'est l'art contemporain. Il y a des choses extrêmement pointues là, d'ailleurs dans cette exposition, bah les gens vont voir des choses très différentes, des choses très intellectuels, si on ose encore dire ce mot, enfin qui seront véritablement plutôt des réflexions sur l'art que des choses dans lesquelles je me reconnaîtrai plus facilement. Quand je parle de mes collaborateurs, des gens avec qui on avait travaillé sur ce site de Béar,
Ben justement dans l'idée aussi du travail, c'est-à-dire d'un travail fait à l'atelier, de gens qui viennent avec des pièces, où on sent que la personne, elle est derrière quelque chose. Donc maintenant, ça, c'est des notions qui se sont décalées. C'est-à-dire, on n'est plus comme ça, on leur apprend pas ça. On leur dit plutôt de travailler sur des idées, des choses comme ça. Ça voudrait dire qu'il peut y avoir d'autres personnes qui réalisent ces choses. Alors voilà. Par contre, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, je l'ai ressenti, disons, dans ma vie, c'est qu'effectivement, les gens attendent quelque chose et il faut leur donner quelque chose aussi. C'est un échange. Bah oui, bah si on dit on a envie de créer quelque chose, on a envie de créer une émotion, ou puis on essaye de le transmettre, on essaye de la transmettre. Bah moi ça me paraît évident, mais ouais.
Et le fait que ces oies soient disséminées chez des privés, à gauche, à droite, ça, ici, pas... ailleurs.
Ouais. Évidemment, c'est un peu contraire à ce que j'aime bien que les choses soient ensemble. C'est-à-dire c'est un peu comme l'histoire avec les loups. J'aimerais recréer cette pièce d'un seul tenant, comme elle était, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Mais à un moment donné, ben, j'ai dû faire ça pour financer le projet. Au fait, j'ai dû vendre les oies à des particuliers parce que ça me permettait d'avoir fait cette pièce en entier. Donc, j'ai dû la financer moi-même. Donc, faut que les gens se rendent compte aussi que c'est des projets, à part cette fois où effectivement j'ai eu un soutien particulier de la Loterie au Monde, c'était tout à fait nouveau pour moi. Autrement, c'est chaque fois un investissement personnel. Donc chaque artiste le fait, hein, aussi. Non, elle est démontable, hein. Donc on s'est arrangé pour que... Bon, il y a un travail de montage à faire qui est vraiment très long, parce qu'au fait, les éléments qu'on voit, qui sont tricotés, ils sont faits à l'atelier. Donc vraiment comme dans une manufacture d'avant l'ère post-industrielle, ils sont fabriqués en atelier, ils font 6,50 m de long par 1 m de large, et ils sont amenés sur le terrain et ils sont assemblés sur la structure. Ils ont été assemblés ici. Vraiment comme la fabrication d'une robe. On reste dans cet esprit-là.
Ça voudrait dire que vous pourriez ajuster cette robe sur un autre terrain.
Bien sûr, tout à fait, c'est fait pour. Donc l'idée, c'est vraiment que cette pièce soit présentée un peu en primeur ici et qu'elle voyage après. Ça, c'est la grande idée.
Comme vos loups qui étaient allés jusqu'à Paris.
Exactement, les loups jusqu'à Paris et puis les oies qui sont en Toscane. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu l'idée, quoi. Non, tout peut voyager, mais c'est clair que moi j'utilise un matériau, donc toutes mes pièces sont en béton, hein, bon, à part ça, évidemment, cette structure elle est en acier, on est d'accord, mais c'est pas un matériau qui voyage tellement non plus, on peut pas le faire en bronze, au fait. Si on voudrait que la pièce continue, qu'elle soit même reproductible, ou si ça se présentait, mais pour le moment, ça c'est un modèle original, voilà, on fait comme ça, quoi. L'idée, c'est que l'atelier, c'est le point de fabrication. Et puis, on vient sur le terrain et on met la pièce en jeu, quoi.
Et pour revenir à ces pans, ils pèsent combien, là?
Ça fait à peu près 350 kilos, je pense, un pan comme ça. Je sais pas combien pèse un vrai pan. Ça va pas être très lourd, j'ai l'impression. S'il y a beaucoup de plumes. Non, mais je sais pas. Non, mais bon, ça, c'est normal parce que c'est plein, on peut dire que c'est de la matière, hein.
Et une pièce comme celle-là, c'est combien d'heures, de mois, de...
Alors, je dirais c'est une année. Une année, et puis après on commence à faire des dessins, on commence à faire des projets, après on commence à dessiner des structures. J'ai fait des essais aussi pour que la structure soit... Ben, ça aussi, c'est une chose que peut-être les gens se rendent pas compte, mais quand on travaille une structure comme ça, ben on dit d'abord on veut travailler avec un ingénieur, puis après on se dit ah mais attends je vais essayer quand même moi-même parce que j'ai des idées, j'aimerais pas que ça soit trop lourd, et enfin on fait toute une série d'essais, et puis à un moment donné on dit voilà on y va, et c'est là que les problèmes sont commencés à arriver, dans le sens qu'on n'a pas tout à fait estimé le temps de travail pour faire ça. C'est-à-dire qu'on est parti sur une base un peu trop élevée, parce que justement, Lara, on est parti un peu sur sa façon de travailler, qui était rapide, et on s'est dit, bon, voilà, on va utiliser ça, on dit, voilà, ça veut dire qu'on peut faire tant et tant de trucs par jour, et après, ça s'est bien mis en place, il y a eu une bonne équipe et tout ça, mais c'était vraiment un travail d'équipe, hein, ça c'est, et le travail d'équipe aussi, dans le sens d'un, il y a quand même une idée de d'être ensemble, de partager des trucs. C'est assez marrant ce qui s'est passé, quoi. Il y a eu un échange quand même.
C'est d'ailleurs la deuxième fois que vous travaillez avec un de vos enfants. Vous avez déjà exposé avec Guillaume qui fait des dessins.
Voilà, exactement. Alors bon, ils sont un peu tous dans le. Là, tout le monde a participé, hein, principalement Lara, puisqu'on a. On a collaborer ensemble pour élaborer cette pièce, mais autrement tout le monde a collaboré, tout le monde est venu travailler 2 jours, 3 jours.
Tout le monde, c'est 5 enfants.
Voilà, exactement. Ouais. Donc ça ressemble un peu au cirque Ni, mais bon, mais enfin, c'est comme ça, quoi.
Et c'est un plaisir partagé pour tous.
Pas toujours. Hein. Il y a des moments assez compliqués, mais en tout cas, c'est une bonne expérience, c'est sûr. Ça permet de parler de ces problèmes d'artistes, ça met en jeu beaucoup de choses et c'est très sensible. Tous ces éléments d'affect, de tout ce qu'on met là-dedans, puis tout ce qu'on attend, puis tout ce qui nous revient pas, ou tout ce qui pourrait nous revenir, ou tout ce que ça met en jeu énormément de choses. Donc on se dévoile pour faire ça. Donc ça veut dire tout le monde est un peu sensible, tout le monde est un peu à cran. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, mais j'imagine que c'est comme ça pour les gens qui font un film ou une pièce de théâtre, tous ces trucs-là. Apparemment, c'est un peu les mêmes histoires. Ouais. Quand il y a un travail d'équipe, donc, hein, on est bien d'accord. Et c'est fou comme ça change aux lumières, c'est incroyable. Là, on a une lumière très forte, hein, mais...
C'est vrai qu'il fait magnifique. On est à peu près à un mois du vernissage,
un mois.
Et c'est tout prêt.
Oui, oui. Ben, c'est un peu comme ça que ça s'est toujours passé à B, c'est-à-dire que le montage doit se terminer un mois avant le début de l'exposition pour que le terrain puisse se remettre en état et puis faire des photos pour le catalogue. Le catalogue, en général, sort le jour du vernissage.
Il y a un pont qui est majestueux avec sa traîne qui repose par terre.
Voilà, là on voit peut-être mieux l'élément central, hein, qui repose au fait sur cette structure. On voit que le tout n'est pas encore tout à fait rouillé parce qu'on vient de déposer au fait ces éléments. Hein.
Et le soir, elle a un éclairage particulier?
Non, il n'y a pas de... Non, où ça change beaucoup, c'est avec la pluie, forcément, parce que ça fait des perles comme ça, c'est très très beau. Et puis là, il faudra que je vienne faire attention, pas qu'il y ait des déformations. Je vois qu'elle est, par exemple, ouais, c'est marrant, je n'avais pas remarqué ça. Je me demandais, on dirait que c'est quelqu'un qui a marché ou... Ça paraît bizarre, hein. Bon, ça, c'est des choses qu'il faudra... C'est peut-être un animal ou je sais pas. Non, ça paraît pas possible. Bon, ça, c'est aussi un truc qui fait toujours peur, des fois, quand on fait une chose comme ça, de s'imaginer que... Je sais pas, comme quelqu'un commence à vouloir grimper dessus, ou ça aussi, ça fait partie un peu des dangers de ce genre de pièces monumentales, quoi. Je sais pas, est-ce qu'un enfant va avoir l'idée de monter là-dessus, par exemple? Ça peut arriver. Quand j'ai un peu vu du tout ici. Alors.
Et là, vous êtes un artiste satisfait quand vous voyez ça?
Ouais, j'espère que ça va être. Ouais, je crois que... Bah, c'est surtout c'est un peu la terminaison d'une grande période de travail, quoi, et de se dire est-ce qu'on arrivera au bout, est-ce qu'on n'arrivera pas. Il y a eu beaucoup de questionnements quand même là autour. Bah, quand on est là, on se dit bon, voilà, quoi, c'est fait, quoi. On ne peut pas revenir en arrière, mais c'est comme ça.
Voilà, on a retrouvé la fraîcheur de l'atelier après avoir tourné autour de la sculpture, robe, parapluie. Et j'ai envie d'aborder un autre aspect d'Olivier Estopé, c'est le musicien. Vous-même, vous avez fait de la musique?
Bah, j'en ai fait un peu parce que j'étais intéressé par par des instruments que j'ai fait un peu comme beaucoup d'adolescents, la musique dans des orchestres, des choses comme ça. Mais après, ça s'est arrêté parce qu'au fait, ben voilà, je suis parti sur les beaux-arts et puis j'ai pris une autre direction. Mais ça reste, je reste totalement imprégné par ça et j'aime ça. Puis j'aimerais en faire, quoi, au fait. C'est surtout ça qui me démange.
D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis arrivée, je vous ai surpris. Vous étiez en train de travailler, de réfléchir, d'organiser, que sais-je. Mais en musique, vous avez coupé la radio quand je suis arrivée. Vous avez toujours de la musique, de la compagnie, de la radio aussi.
La radio, beaucoup. J'aime beaucoup la radio. Et puis, moi, j'aime beaucoup les voix aussi. Mais bon, ce travail ne permet pas toujours d'être attentif, dans le sens que des fois, c'est un peu un fond, quoi. C'est un peu triste pour les gens qui sont derrière, mais disons c'est quand même un fond, puis des moments ben on a de l'attention quand on fait un travail qui fait pas de bruit par exemple, puis des moments ben on fait du bruit puis on peut pas suivre n'importe quelle émission ni écouter n'importe quoi. Donc voilà, ça reste un peu comme ça, un peu des séquences dans la journée.
Je vous ai pris une surprise parce qu'en fait, il y a en 2011 à Neuchâtel, vous faites une grosse exposition, la sixième dans la même galerie, la galerie Noumaga.
Qui était à Auvernier, qui est maintenant à Colombier. Et puis, bon, ça c'est une fidélité. J'ai souvent exposé là-bas parce que aussi les gens me font confiance. Donc ça permet d'arriver avec un projet des fois pas évident à présenter. C'est quand même souvent des choses qui sont difficiles ou aussi même pour vendre. Mais ça permet, disons, l'espace permet de présenter quand même tout un ensemble, l'ensemble d'un travail. Et là, j'avais orchestré une espèce d'exposition sur une thématique que j'ai repris de Maurice Ravel, qui est le tombeau de Couperin. Enfin, ça s'appelait comme ça, le tombeau de Couperin, qui est au fait. Mais l'idée, c'était de mettre en scène, parce qu'il, dans ce lieu d'exposition, il y a un grand espace qu'on peut appréhender d'un seul regard, si on veut, quand on arrive dans cette pièce. Et mon idée, c'était de travailler sur des thématiques différentes qui font référence, comme dans cette pièce, à des personnes à qui je voulais rendre hommage, où certaines sont décédées, d'autres sont là ou toujours là, de rendre hommage à ces personnes à travers six thématiques que j'ai mis en scène dans cet espace. Et si on peut faire cette comparaison, c'est au fait, comme quand on rentre dans un lieu, on voit tout en même temps. On peut voir toutes les pièces et au fait, elles coexistent dans cet espace, mais elles peuvent être très différentes. Les traitements sont très différents. Et c'est de voir un peu comment les choses interfèrent l'une avec l'autre. Enfin, c'était ça l'idée. Et aussi, par rapport à une logique de travail qui était de passer d'une thématique à une autre avec des choses très très différentes. Par exemple, il y avait une mise à mort avec un taureau. Il y avait un hommage à un cinéaste russe qui s'appelle Sokourov. Avec des dessins, il y avait un hommage à Zouk avec un manteau de masque. Et puis aussi une sculpture qui s'appelait le bouquet. Il y avait une sculpture qui s'appelait le baiser, qui était chaque fois un élément particulier.
Et cette exposition s'appelait « Le tombeau de Couperin ». Comme le morceau de musique de Ravel. Je vous ai d'ailleurs amené ce disque et je vais simplement vous demander d'en choisir un des six éléments de cette composition.
Alors, je crois que je vais choisir le numéro 7, là. Donc, ça s'appelle Forlan. Et puis, je vois que plus loin, il y a le rigodon, mais je ne le prendrai pas cette fois. Mais le rigodon, c'était le titre d'un travail que j'ai fait avec des loups à Rue en 2010. Et c'était une ronde, un peu comme une ronde, aussi avec l'idée d'un découpage d'une forme de ribambelle. Aussi avec un jeu sur le paysage, donc on a toujours le paysage en transparence, et on a une ronde qui reprend un peu l'idée de la ribambelle en papier découpé, avec des formes relativement simples. Alors, on y va avec celui-là, là, le
Forlan.
Forlan, oui. Donc, non, c'est faux, là, comme ça. Comme ça.
En général, j'aime bien finir une tête à l'envers en cédant mon micro à l'invité.
D'accord. Et puis, je dois faire quoi? Mais ça serait par exemple pour vous poser une question ou,
non, mais simplement peut-être dire ce qui vous passe par la tête. Ou...
Bon, ce qui me passe par la tête maintenant, c'est que, au fait, puisque c'était un travail d'équipe, on a fini de faire cette pièce quasiment il y a quoi, deux jours. Donc ça veut dire que c'est comme un gros mouvement de vague qui est en train de redescendre. Donc après toute cette élaboration, aussi avec toute cette équipe, aussi dire merci aux gens qui ont collaboré à ce travail. Bah, c'était chaque fois des rencontres particulières et intéressantes. Puis je pense que voilà, j'espère que maintenant cette onde de choc va un petit peu se répercuter. C'est un peu ça mon projet, enfin ce qui me passe par la tête maintenant.
En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mmh. Un matin d'orfin. L'œuvre d'Olivier Estopé est à voir dans le cadre de la 12e triennale de sculpture en plein air B et Art du 1er juin au 5 octobre. Les différentes phases de ce projet de longue haleine seront par ailleurs exposées dès le 12 juin dans la galerie du Crochetant à Monté. Réalisation Sacha Unger, Marlène Métraillé au micro. La semaine prochaine, même endroit, même heure, Laurence Froidevaux vous donne rendez-vous dans les coulisses des deux dernières créations du Ballet Béjart Lausanne. RTS Espace 2, il est 13h, l'heure d'écouter le journal de la mi-journée.
Bonjour, 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 bonjour.